Si vous êtes fatigué de crier sur vos enfants, si vous avez l'impression de ne pas être la mère ou le père que vous avez toujours rêvé d'être, si vous rêvez de relations familiales plus apaisées, plus sereines, si vous cherchez l'équilibre entre fermeté et bienveillance, sans basculer ni dans l'autoritarisme ni dans le laxisme, alors j'ai quelque chose à vous proposer. Les jeudis soirs, du 16 mai au 27 juin, j'organise un atelier de parents en ligne, en tout petit groupe. Durant 7 semaines consécutives, je partagerai avec vous tous les outils de la discipline positive qui m'ont moi-même aidé à la fois à dépasser mon tempérament colérique et aussi à établir des relations plus saines et apaisées avec mes enfants. Nous ferons des jeux de rôle pour tester ces outils et voir ce qui vous convient. Nous réfléchirons ensemble pour trouver des solutions à vos problèmes parentaux et nous nous encouragerons mutuellement tout au long de ce parcours. Tout se passe sur Zoom. Vous pouvez donc participer à l'atelier tranquillement depuis chez vous sans payer une babysitter. C'est parfait pour les parents solos qui n'ont pas forcément un relais facile à la maison. Et pour encourager les couples à participer à deux, eh bien j'offre l'inscription à l'atelier aux deuxièmes parents. Alors rejoignez-nous vite, les places sont limitées et les inscriptions ne seront possibles que jusqu'au dimanche 5 mai pour nous laisser le temps de vous envoyer votre colis de bienvenue avec tout ce dont vous aurez besoin pour l'atelier. Moi j'espère vous retrouver très vite dans un groupe aussi extraordinaire que ceux des dizaines et des dizaines de parents qui ont déjà participé à des ateliers comme celui-ci et qui en sont tous sortis tellement plus sereins. C'est simple, on a un taux de satisfaction de 100%. Toutes les infos sont sur la page d'inscription de l'atelier que vous retrouverez dans les notes de votre épisode. Alors bonne écoute et à très bientôt. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris 7, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. J'avais envie d'un peu de légèreté aujourd'hui, et peut-être que vous en avez besoin, vous aussi, je sais que c'est une période difficile pour beaucoup, surtout quand on est parent et que la vie est pleine d'incertitudes en ce moment. On n'arrive jamais à savoir 2 jours à l'avance quel sera le planning des prochaines journées, puisqu'il peut y avoir une fermeture de classe, une annulation d'activité, un décalage d'activité, un changement de protocole sanitaire, etc., etc. J'avais envie aujourd'hui de parler de chansons Disney. Alors pas seulement Disney, mais bon, quand même, beaucoup de chansons Disney. Alors malheureusement, je ne pourrai pas vous faire écouter des extraits de chansons Disney, car vous savez qu'ils sont très à cheval sur le copyright, et que s'ils repèrent sur un podcast ou autre, sur un enregistrement, un extrait de leur chanson, de leur musique, eh bien ils arrivent à faire en sorte que les podcasts, les vidéos, etc. soient immédiatement retirés des plateformes. Donc je ne vais pas prendre ce risque, et malheureusement, je suis désolée, mais les seules chansons Disney que vous entendrez dans cet épisode seront donc fredonnées par moi. Bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Pourquoi voulais-je vous parler de chansons Disney ? Non, ça n'est pas seulement pour le plaisir de retomber en enfance. Je ne sais pas vous, mais c'est vrai que moi je suis d'une génération où les films Disney ont bercé mon enfance. La sortie annuelle à peu près du dessin animé Disney était un événement. Mes premières séances de cinéma ont été pour aller voir des films Disney comme Le Roi Lion. Je me rajeunis pas, je pense, en avouant tout ça. Et j'ai réalisé, à l'âge adulte, que les chansons que je préférais dans les dessins animés Disney en révélaient beaucoup sur moi-même. Et je pense que de manière générale, les chansons Disney que nos enfants préfèrent en disent beaucoup sur eux. Et cet épisode est donc une invitation à écouter un petit peu ce que nos enfants fredonnent, les chansons qu'ils préfèrent, pour mieux les comprendre, pour essayer de comprendre ce qui se cache dans leur petite tête et dont nous n'avons pas toujours idée. Alors la base derrière tout cela, c'est un petit peu la même chose que ce que vous pouvez trouver dans le livre de Bruno Bettelheim sur les contes de fées. C'est un psychanalyste, il me semble, ou un psychiatre, j'avoue que j'ai un doute. Et un psychanalyste, je pense que ça s'appelle la psychanalyse des contes de fées. Et dans ce livre, que vous connaissez peut-être déjà, Bruno Bettelheim présente différents contes de fées classiques. Vraiment les contes d'origine, les contes des frères Grimm, par exemple. Et montre comment ces contes peuvent, en quelque sorte, servir de thérapie à des enfants. Comment ces contes parlent de choses bien plus profondes que ce que l'on peut s'imaginer. Alors, je ne vais pas vous donner des tonnes d'exemples, mais il y a parfois dans des contes une symbolique cachée autour du passage à l'âge adulte, du passage du rôle de fille à mère en particulier, des choses autour de la maternité, où vous avez par exemple la bonne mère et la marâtre, qui sont en fait souvent deux facettes de la même personne. C'est-à-dire que nous, mamans, je m'inclus totalement dans ce lot, nous présentons parfois à notre enfant l'image d'une marraine, la bonne fée, ou l'image d'une marâtre, d'une belle-mère, d'une mauvaise reine, etc., qui est absolument odieuse avec son enfant. Et du coup, notre enfant peut en arriver à séparer en nous ces deux facettes et à associer l'une de nos facettes à l'image de la bonne fée et une autre à l'image de la sorcière ou de la marâtre. Et ces deux personnages vont se retrouver présents dans les mêmes contes, et c'est en quelque sorte comme si, pour l'enfant, dans nos bons moments, nous l'aidions à grandir, nous étions un personnage de soutien dans son histoire, et dans nos pires moments, nous étions en quelque sorte son ennemi, l'ennemi de son développement. Alors voilà ce qui se cache un petit peu derrière ces contes, et c'est vrai que la force des contes les plus traditionnels, c'est qu'ils ont été transmis de manière orale, qu'ils se sont formés sur de longues périodes, qu'ils ont donc été travaillés et retravaillés par la parole orale, ils ont été racontés et re-racontés, de façon à ce qu'il n'en reste que l'essentiel. Ce qui est encore présent dans ces contes, les contes des frères Grimm par exemple, ont été recueillis directement auprès de la tradition orale. Les frères Grimm ont voyagé à travers toute l'Allemagne pour écouter les grands-pères et les grands-mères raconter ces contes, ces légendes. Et c'est le fruit d'une longue tradition qui a travaillé ces contes. Ce qui fait que ces contes sont porteurs d'une énorme richesse symbolique que nous pouvons chercher à décrypter. Et soyons honnêtes, dans les dessins animés de Disney, une grande partie de cette richesse symbolique a pu être évacuée. Malgré tout, il y a aussi des choses qui ont été ajoutées par les créateurs Disney. Le conte de la Belle et la Bête, par exemple, n'a que peu de rapport avec le conte français que nous connaissons, dont nous avons les versions écrites. Il y a beaucoup d'ajouts, il y a des changements, des modifications. Mais malgré tout, il s'agit d'un univers de contes de fées dans lequel nos enfants peuvent se projeter sans danger. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'identifier à un personnage et en même temps rester suffisamment distants de ce personnage. C'est comme si du coup ils pouvaient s'auto-analyser, faire leur propre psychothérapie si vous voulez. Et je voudrais analyser ça avec vous à travers deux chansons que personnellement j'ai énormément aimées dans des films Disney, et puis parler avec vous de l'exemple d'une de mes filles et de ses chansons préférées, alors qui n'est pas une chanson Disney pour le coup, mais tout de même. Parce que, alors je préfère parler de mon propre exemple, parce que je peux à la fois vous parler des chansons que j'aime par-dessus tout, et on peut réfléchir à ce que cela signifie sur moi, et derrière je me connais aussi moi-même, et donc je peux savoir, surtout avec le recul, avec l'âge adulte, si c'était réellement pertinent d'analyser ma psyché à travers les chansons Disney que j'aimais particulièrement. Donc c'est un exercice un petit peu bizarre auquel je vous invite aujourd'hui, mais à partir de là, peut-être que je vous aurai convaincu de bien écouter les chansons qu'aiment vos enfants pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans leur tête. Alors la première chanson que j'aimais énormément quand j'étais petite, c'est l'une des chansons de La Belle et la Bête. c'est lorsque Belle qui est la fille d'un inventeur, qui est une grande lectrice, qui est passionnée de livres, se rend au village pour faire quelques emplettes, enfin surtout pour aller emprunter un nouveau livre. Et elle croise tous les gens du village, elle emprunte un nouveau livre et puis elle va le lire. Et cette chanson montre à quel point Belle est différente des gens du village qui l'entourent. Alors, je vais juste vous la fredonner un petit peu pour vous la remettre en mémoire si vous connaissez déjà ce dessin animé de La Belle et la Bête. Sinon, n'hésitez pas à aller chercher sur YouTube, par exemple, chanson Belle et la Bête, et chercher Je veux vivre autre chose que cette vie. Et à partir de là, vous devriez pouvoir retrouver cette chanson. Alors, elle commence par arriver dans le village, et puis elle parle des gens qui l'entourent. Le boulanger tient son plateau bien garni du bon vieux pain de son fourni. Et dès qu'on est arrivé, les gens ne sont qu'étrangers dans les rues qui pleurent d'ennui. Et ça continue comme ça, etc. Et elle parle de toutes ces personnes autour d'elle qui sont prises dans leurs activités. Donc le boulanger, il y a les jeunes filles qui cherchent à séduire le beau Gaston, le beau chasseur. Et elle se sent étrangère à tout ça, ces gens qui sont étrangers. Et le passage qui me tournait tout le temps en tête, je ne connaissais pas forcément tous les couplets de cette chanson par cœur, mais il y a un passage que j'avais en tête qui me tournait un peu en boucle, et c'est un moment qui m'a beaucoup marqué visuellement aussi, où Belle court en haut d'une falaise, disons, elle court sur l'herbe, et elle a le vent dans les cheveux, dans sa robe. Je vous raconte volontairement tout ça d'après mes propres souvenirs, sans avoir regardé à nouveau le dessin animé, pour vous dire vraiment quelle impression j'ai conservée de ce film. Et elle a le livre qu'elle vient d'emprunter dans les mains, et à travers toute la chanson, elle nous dit combien elle voudrait vivre une histoire comme dans ses livres. Et donc elle court comme ça sur la falaise, sur l'étendue d'herbe en haut de la falaise, et elle chante « Je veux vivre autre chose que cette vie ». Et puis on a en écho, mais ça n'a plus rien à voir, Gaston qui, lui, au village, en train de frimer avec ses gros muscles, dit « Je ferai pour Belle un excellent mari ». Mais bon, ça c'est juste l'écho de la chanson. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ce passage « Je veux vivre autre chose que cette vie ». Et je pouvais regarder ce passage en boucle quand j'étais petite. Alors attention, hein, c'est avec des cassettes. Il fallait rembobiner la cassette, revenir au début de la chanson et remettre la chanson. Et cette chanson me tournait en boucle dans la tête. Et si on réfléchit un petit peu, alors il faut que je vous donne un petit peu de contexte sur moi, mais j'étais une enfant à haut potentiel. Alors je suis toujours à haut potentiel, mais je ne suis plus une enfant. Et j'avais déjà 2 ans d'avance, je pense, au moment où j'ai découvert particulièrement ce dessin animé. Donc, j'étais jeune dans ma classe et je me sentais différente de mes camarades. J'étais effectivement différente, je ne savais pas encore tellement pourquoi. J'ai su vers 8 ans que j'étais à haut potentiel, mais je ne le savais pas forcément au moment où j'ai découvert ce dessin animé et où il m'a profondément marquée. Donc je sentais, comme Belle, que j'étais différente. Elle, c'est parce qu'elle est passionnée de livres, qu'elle rêve d'une vie plus intense, plus intéressante que sa petite vie quotidienne avec la routine du village. De mon côté, c'était simplement que je rêvais d'un autre monde, un monde où j'aurais ma place, un monde où je me serais sentie mieux. Il y a le fait que Belle aimait énormément les livres, moi aussi. J'étais passionnée de lecture, je passais beaucoup, beaucoup de temps à lire. Le soir, en rentrant de l'école, c'était quasiment mon unique activité. Et il y a la volonté de quelque chose de différent, la volonté de quelque chose de plus intense, quelque chose qui répondait à mon besoin déjà de stimulation intellectuelle, là où il m'arrivait de m'ennuyer à l'école, malgré mes 2 ans d'avance. J'ai sauté encore une classe un peu plus tard et je me suis retrouvée avec 3 ans d'avance. Et à la fois, cette sensation d'être différente, et en même temps, l'idée que ce n'était pas moi qui étais en tort en quelque sorte, mais que c'était le monde qui n'était pas, peut-être pas toujours à la hauteur. Le monde qui était parfois bien méchant. C'est aussi une époque où j'étais... je parle d'une longue période, hein, j'ai aimé ce dessin animé pendant des années, mais pendant toute une période, j'étais harcelée à l'école aussi. Et je rêvais de mieux. Je rêvais d'un monde plus stimulant, d'un monde plus ouvert et plus gentil avec moi, et je rêvais de rencontrer des gens qui étaient davantage comme moi. Voilà. Et maintenant, avec le recul, je me dis que, tiens, si j'avais été ma maman, si j'avais été mon papa, en fait, cette chanson aurait pu m'en apprendre beaucoup sur cette petite Anne-Laure qui regardait ce film Disney et qui chantait cette chanson à longueur de journée. Si j'avais été ma maman, si j'avais été mon papa, j'aurais pu apprendre à travers ça que je ne me sentais pas à ma place, que je me sentais différente, que je rêvais de mieux, de plus. Et ça aurait peut-être pu être un début de conversation. Tiens, j'entends que tu aimes beaucoup cette chanson. Toi, si tu étais belle et que tu rêvais d'une autre vie, de quoi est-ce que tu rêverais? Et ça m'aurait donné des indices, peut-être, à mes parents sur ce qui me manquait. Peut-être qu'il me manquait de belles amitiés à ce moment-là. Peut-être qu'il me manquait d'avoir rencontré des enfants qui me comprenaient et que je comprenais. Des enfants avec qui j'aurais été sur la même longueur d'onde. Peut-être aussi que par ce biais-là, à force de creuser, ils auraient pu découvrir que j'étais harcelée. Ce qu'ils n'ont découvert que bien plus tard, quand j'étais au lycée. C'est au lycée que j'ai posé ce mot de harcèlement sur ce que j'ai vécu à l'école primaire, parce que je croyais malheureusement à l'époque que c'était normal. Voire que c'était de ma faute, parce que j'étais différente. Alors je ne fais aucun reproche à mes parents. Ils n'avaient aucun moyen de savoir que j'étais harcelée. Je le leur ai totalement caché, et c'était totalement invisible pour les surveillants et les enseignants de mon école. Ça se passait pendant la récréation, et extérieurement, ça pouvait passer pour un jeu d'enfant. Il aurait vraiment fallu m'observer de façon très très attentive pour se rendre compte que ce que je vivais était du harcèlement et non pas un jeu d'enfant. Mais voilà tout ce que l'on aurait pu découvrir en se posant simplement quelques questions sur cette chanson que je chantais tout le temps et que j'aimais à cœur perdu. Alors, une deuxième chanson que j'ai beaucoup aimée, cette fois-ci à l'âge adulte. Et j'ai réalisé seulement plus tard, en m'interrogeant sur moi-même, j'ai réalisé seulement plus tard pourquoi je l'aimais autant. Il s'agit d'une chanson de la Reine des Neiges que vous connaissez sans doute tous. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Alors, peut-être que vous êtes déjà crispé, que cette chanson vous horripile, vous l'avez peut-être trop entendue. Eh bien moi, je revendique le fait que j'aime énormément ce dessin animé de la Reine des Neiges. Énormément. Et particulièrement pour cette chanson. Alors, je sais que beaucoup de personnes s'identifient à Anna. En ce qui me concerne, je m'identifie à Elsa. Et en essayant de comprendre pourquoi moi-même, j'aimais beaucoup cette chanson et les images qui l'accompagnaient, eh bien, j'ai réalisé que cette chanson et les gestes que l'on voit Elsa faire sont en fait propres à ce qu'on appelle généralement une crise d'adolescence. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, non mais franchement, vous pouvez être parent et ne pas connaître l'histoire de la Reine des Neiges. Bon, il s'agit d'une princesse, Elsa, dans le royaume d'Arendelle, qui est un royaume de type scandinave, qui a le pouvoir de projeter de la glace, de transformer les choses en glace ou en neige. Et ce pouvoir blesse sa petite sœur, Anna, un jour. Suite à cela, ses parents lui recommandent de cacher ce pouvoir, de ne pas en parler, de porter des gants pour ne pas risquer de transformer des choses en glace en les touchant. Et donc, elle se renferme sur elle-même, elle s'éloigne de sa petite sœur et elle vit dans la peur de déclencher ce fameux pouvoir qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne contrôle pas. Et à un moment donné, sa petite sœur, qui est devenue grande, provoque en elle une réaction très forte le jour de son couronnement, du couronnement d'Elsa. Et Elsa laisse échapper un mur de glace devant elle. Et donc son secret est maintenant révélé et elle s'enfuit dans la montagne où elle se construit un gigantesque palais de glace. Et c'est à cette occasion-là qu'elle chante « Libérée, délivrée ». Et je crois que j'aime encore plus la version anglaise « Let it go, let it go », qui veut littéralement dire Personne n'a envie d'avoir un enfant roi. Et personne n'a envie non plus d'avoir un enfant complètement éteint et soumis parce qu'on l'aurait dressé à coups de claques ou de fessées. La grande difficulté de notre tâche de parent, c'est d'équilibrer la fermeté et la bienveillance sans jamais basculer ni dans l'autoritarisme ni dans le laxisme. Eh bien, c'est justement pour vous aider à retrouver cet équilibre entre fermeté et bienveillance que je vous invite aujourd'hui à participer à notre atelier de parents en ligne qui se déroulera sur Zoom du 16 mai au 27 juin prochain. Durant ces 7 séances, nous allons apprendre à poser un cadre dans toute la famille. Nous allons travailler sur ces notions de fermeté et de bienveillance, sur ce qui nous amène à plus de fermeté, ce qui nous amène à plus de bienveillance, pour essayer d'être les deux à la fois, et non pas de basculer entre le matin et l'après-midi, où on va être ferme le matin et beaucoup trop bienveillant l'après-midi. Et on va aussi apprendre à nous ressourcer. Dans la troisième séance, on va travailler sur l'ordre de naissance et son impact sur les enfants. Et nous allons aussi étudier ce que sont les comportements inappropriés chez les enfants et comment on peut y répondre. Dans la quatrième session, nous allons faire tout un bloc pour passer de la punition à la recherche de solutions. C'est le bloc central de tout cet atelier et croyez-moi, c'est là qu'il y a les prises de conscience les plus phénoménales. Ensuite, on abordera la gestion des conflits, en particulier dans la fratrie, mais aussi évidemment entre enfants et adultes. Ensuite, on apprendra à mieux nous connaître grâce à un travail qu'on appelle les cartes dominantes. Et puis, on apprendra à trouver des solutions tous ensemble en famille. Et enfin, durant la dernière séance, nous verrons comment passer un accord et nous y tenir et faire en sorte que tout le monde dans la famille s'y tienne. Voilà, si ce programme vous tente, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'atelier de parents. Pour cela, c'est très simple. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode et vous avez tout simplement jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire. Il nous faut un petit peu de temps pour préparer l'atelier, vous envoyer votre colis de bienvenue dans lequel vous retrouverez le livre La discipline positive et un porte-vue avec tous les documents qui pourront vous être utiles, toutes les ressources dont nous aurons besoin pendant l'atelier. Je vous laisse écouter la fin de votre épisode et n'hésitez pas donc à consulter le lien d'inscription qui se trouve dans les notes de votre podcast. Laisse sortir. Tout laisser sortir, tout laisser aller. Et au fur et à mesure de cette chanson, Elsa, qui porte ses vêtements de couronnement, qui sont très contraignants, ce sont des vêtements de cour, avec des gants, avec une cape, eh bien elle transforme tout cela. Elle décroche, elle dégrafe sa cape, qu'elle laisse s'envoler. Elle enlève ses gants, et elle transforme sa robe en une robe éclatante, dans les tons bleus glacés, avec des flocons dessinés dessus. Et une robe qui est beaucoup plus osée, disons, beaucoup plus moulante, avec un décolleté. Et elle relâche sa coiffure, qui était un beau chignon, pour laisser aller une longue tresse le long de ses cheveux. Et elle fait un mouvement avec ses cheveux, exactement comme dans les pubs L'Oréal, vous savez, parce que je le vaux bien. Et elle adopte une démarche qui est beaucoup plus séductrice. Et en fait, à travers cette chanson, on a un véritable passage de l'enfance à l'âge adulte. Parce qu'elle se comportait comme une enfant de façon un peu innocente, pudique, et elle se transforme en femme qui assume pleinement sa féminité. Et ce que je vois à travers ça, c'est la révolte typique de la crise d'adolescence. Et cette révolte typique de la crise d'adolescence, elle est encore plus radicale, voire violente, chez les enfants qui ont été des enfants parfaits durant leur enfance et qui ont besoin à un moment donné de briser une forme de carcan autour d'eux. Parce que les enfants parfaits, alors ou bien c'est parce qu'ils sont dans des familles très autoritaires où on leur impose d'être parfaits, ou bien parce que ce sont des enfants qui cherchent à tout prix à faire plaisir à leurs parents et qui s'imposent eux-mêmes ce carcan. Mais dans tous les cas, à l'adolescence, ou parfois jeune adulte, hein, si la crise d'adolescence n'a pas eu lieu, eh bien, ils ont besoin de vivre pour eux-mêmes. Et donc, non plus de vivre par peur de leurs parents ou pour faire plaisir à leurs parents. Ils ont besoin de s'assumer pleinement et de faire les choses pour eux-mêmes. Et toute cette chanson « Libérée, délivrée », pour moi, c'est ce qu'elle raconte. Et ça correspond tout à fait à ce que j'ai eu besoin de vivre à un moment donné. Oui, j'étais une enfant très sage. J'étais une enfant sans histoire, qui ne faisait pas de bruit, qui jouait tranquillement dans sa chambre toute seule. Une enfant très autonome, je faisais mes devoirs tranquillement, très vite. Je ne posais pas de problème. Vraiment. Je crois que je peux compter sur les doigts d'une main les fois où mes parents m'ont grondé quand j'étais enfant. Et ça n'était pas que je vivais avec des parents autoritaires ou quoi que ce soit, pas du tout, mais j'avais envie de leur faire plaisir, de me conformer à cette image positive qu'ils avaient de moi, à être une enfant modèle. Donc c'est uniquement pour leur faire plaisir que, et ça venait de moi, hein, que je me suis mise à fonctionner comme ça. Et il a bien fallu à un moment donné quand même que je vive ma crise d'adolescence, si on veut, alors qu'il s'est passé relativement en douceur, mais à un moment donné, j'ai dû m'opposer frontalement à mes parents sur des sujets qui pour moi étaient majeurs, comme le choix de mes études ou le choix de mon mari, avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Bon, pas besoin non plus de trop rentrer dans les détails, mais La Reine des Neiges est sortie alors que j'étais déjà adulte, et je n'ai pas compris tout de suite pourquoi j'accrochais autant avec cette chanson et autant avec ce personnage d'Elsa. Mais c'est parce que ce sentiment de libération, je l'ai vécu et j'ai peut-être encore besoin même de le vivre aujourd'hui. Peut-être que même aujourd'hui, adulte, j'ai encore besoin de briser certains carcans que je me suis imposés depuis toute petite. Pas forcément liés à mes parents d'ailleurs. Et donc vous voyez, si j'avais connu la Reine des Neiges, je sais pas, à 10, 12, 14 ans, peut-être que j'aurais aussi énormément aimé cette chanson. Et peut-être que ça aurait pu être un indice pour mes parents. Qu'il y avait une recherche de liberté derrière. Qu'il y avait la volonté de sortir d'un cocon, de sortir d'un carcan qu'on se serait peut-être imposé. Ce qui est frappant aussi dans cette chanson, c'est à la toute fin où elle regarde l'écran d'un air assez je dirais pas malicieux, mais avec une forme d'arrogance en disant le froid est pour moi le prix de la liberté, mais en fait c'est une... Alors, je vais pas dire que c'est une mauvaise traduction, parce que c'est très difficile de traduire des chansons Disney. Ça n'est pas une traduction exacte. Et si ça avait été une traduction exacte, ça aurait été très moche dans la chanson. En anglais, elle dit « The cold never bothered me anyway ». Littéralement, le froid ne m'a jamais dérangé. Mais en fait, bon, dans l'une comme l'autre version, ce qu'elle est en train de dire, c'est l'isolement, le fait de me retrouver seule, le fait de ne plus plaire aux autres, et donc d'être en froid avec eux, hein, je pense qu'on retrouve bien cette métaphore du froid et de la glace, ça ne m'a jamais dérangé. Ça n'est pas ça l'important. Ou alors, tant pis si je me retrouve en froid avec les autres. Donc voilà ce que l'on aurait pu supposer de ce qui se passait dans ma tête à 10, 12 ou 14 ans si j'avais rencontré cette chanson à ce moment-là et si elle m'avait autant plu qu'aujourd'hui. Et alors pour vous donner un autre exemple, il y a une chanson que l'une de nos filles aime énormément et qu'elle a, alors moins maintenant, mais qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup chantée. Et c'est une chanson de Nolwenn Leroy qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Parisienne, enfin je ne serai jamais ta Parisienne. Et le refrain dit j'aimerais tant que tu me comprennes, je ne serai jamais ta Parisienne. Et ces deux petites phrases, encore une fois, c'est le refrain qu'elle reprenait en boucle. Pas forcément tous les couplets, mais beaucoup ce refrain. Et surtout, quand elle chantait la chanson, elle commençait par ça. Et je pense que c'est un indice assez fort. Ça veut dire que c'est ce passage-là qui l'a le plus marqué. J'aimerais tant que tu me comprennes, je ne serai jamais ta parisienne. Alors, ce que dit Nolwenn Leroy dans cette chanson, c'est que, elle parle à un amoureux, probablement, et elle lui dit, mais je ne serai jamais ta parisienne, je ne m'adapterai jamais totalement à ton monde. Au fond de moi, je suis bretonne avant tout, j'ai un côté un peu sauvage, et tu ne me domestiqueras pas au bord de la Seine. En gros, je paraphrase. Mais le fait que ma fille aime beaucoup cette phrase, ça n'est pas parce que nous vivons près de Paris, hein, ça n'est pas le problème. Il ne faut pas interpréter les choses de façon aussi littérale. Je pense que plus profondément, c'est qu'elle avait le sentiment de ne pas être totalement comprise et qu'elle ne serait jamais ce qu'on attendait exactement d'elle. Peut-être nous, ses parents, peut-être certains de ses amis, peut-être son entourage. En tout cas, elle avait, à mon sens, le sentiment de ne pas être comprise. Et le sentiment d'avoir une part en elle, un peu sauvage, non domestiquée, qui ne pourrait jamais s'adapter totalement aux attentes que l'on pouvait avoir vis-à-vis d'elle. Aux attentes que nous, parents, peut-être, nous pouvons avoir vis-à-vis d'elle, aux attentes que son entourage, ses professeurs, ses amis, etc. peuvent avoir aussi vis-à-vis d'elle. Et donc, c'est une chose à creuser. Alors bon, je n'aime pas révéler des choses trop personnelles sur nos enfants, mais vous voyez qu'il y a des choses là à creuser qui sont intéressantes. Et typique, alors là, il ne s'agit pas d'une chanson de Disney, mais c'est souvent particulièrement le cas avec des chansons Disney. Parce qu'elles sont très riches de sens, tout comme les contes dont elles s'inspirent, et parfois même plus que les contes dont elles s'inspirent. Elle porte des choses très symboliques. La Reine des Neiges, par exemple, est une version totalement déformée du conte de la Reine des Neiges. Ça n'a plus rien à voir avec le conte d'origine, dont ils se sont très très vaguement inspirés au début. Mais, à l'inverse, Disney a apporté d'autres choses à ce conte. Et a apporté cette notion de crise d'adolescence, de rébellion, de l'enfant parfaite, qui prend son indépendance et qui devient véritablement elle-même en prenant son indépendance. Et en transformant ce qui semblait être des défauts, à savoir son don, sa magie, en quelque chose d'extraordinaire qui apporte du bonheur aux gens. Voilà. De la même façon, à l'adolescence, on peut avoir le sentiment que nos parents voient certaines choses comme des défauts, des insuffisances de notre part, alors que peut-être il s'agit de talents cachés qui peuvent apporter beaucoup au monde, l'enrichir et apporter du bonheur aux gens. Donc, si jamais votre enfant se met à fredonner tout particulièrement une chanson de Disney ou peut-être d'autres choses, interrogez-vous peut-être sur les paroles. Et je renouvelle ce petit conseil, essayez de faire attention aux paroles par lesquelles l'enfant commence quand il fredonne quelque chose. Parce que quand j'étais toute petite et que je chantais La Belle et la Bête, souvent je commençais directement par « Je veux vivre autre chose que cette vie » et ensuite je reprenais la véritable introduction de la chanson qui est « Le boulanger sort son plateau bien garni » etc. etc. Mais c'était le passage le plus important était en fait le passage final et moi je le mettais au début. Donc écoutez ce qui est le passage le plus répété par votre enfant. Et je ne suis pas sûre que ce soit un hasard si « Libérée, délivrée » a été autant aimée, chantée et reprise par les enfants du monde entier. Je pense que c'est parce que ça correspond vraiment à une phase typique, caractéristique de leur développement, une phase de l'arrivée dans l'adolescence. Donc regardez par quelles paroles votre enfant commence, regardez aussi quel passage il répète le plus souvent. Vous voyez, pour ma fille, c'était vraiment le « je ne serai jamais ta parisienne ». Non, pardon, « j'aimerais tant que tu me comprennes », justement, ce passage-là. Et ensuite, « je ne serai jamais ta parisienne ». Et sans chercher non plus à surinterpréter, essayez de voir quelle est l'émotion derrière, quelle est la chose la plus importante dans la chanson. Dans La Belle et la Bête, c'était le sentiment d'être différente et le désir de davantage, le désir d'un autre monde, de quelque chose de plus. Dans Libérée, délivrée de la Reine des Neiges, c'était le sentiment d'avoir été renfermée et d'être enfin libre. et le sentiment de ne plus avoir de compte à rendre à personne, de se libérer des attentes que l'on avait vis-à-vis de soi. Et puis, dans Parisienne de Nolwenn Leroy, c'est le sentiment d'être incomprise et peut-être de ne pas être totalement à sa place, ou d'avoir une part en soi qui ne sera jamais totalement à sa place dans le monde où on est actuellement. Alors voilà, j'espère que ça aura été peut-être un moment plus léger aussi pour vous, que ça vous aura replongé en enfance. Je serais très curieuse, peut-être que vous pouvez commencer par réfléchir aux chansons que vous, vous aimiez énormément petit. N'hésitez pas à le partager sur le Terrier des Montessori 7, vous savez, c'est notre groupe Facebook. Ça peut donner lieu à des échanges assez amusants pour savoir peut-être ce qu'il y avait dans votre tête au moment où vous aimiez les dessins animés de Walt Disney. Et peut-être que ça vous apportera aussi des choses pour votre enfant. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, pleine de chansons. N'hésitez pas à en profiter pour chanter peut-être et danser un peu avec vos enfants, pour avoir quelques moments de légèreté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. N'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire à notre prochain atelier de parents en discipline positive sur Zoom. Et petit rappel, l'inscription du deuxième parent est offerte. Donc si vous voulez prendre du temps en couple, à la fois pour vous et pour votre famille, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Vous pourrez suivre tous les ateliers de chez vous sans même avoir à prendre une babysitter. Mais bien entendu, si vous êtes parent solo, vous êtes tout autant le bienvenu. J'ai donc hâte de vous retrouver les jeudis soirs de 20h30 à 22h30 entre le 16 mai et le 27 juin pour 7 séances de 2 heures en discipline positive. Toutes les informations sont disponibles sur le lien d'inscription que vous retrouverez dans les notes de votre épisode. À très bientôt !